sujet de la causerie de ce soir, c'est, si j'ai bonne mémoire, une véritable femme de lettres, la comtesse de Ségur. Alors d'abord, je tenais à justifier le titre de cette causerie d'aujourd'hui. Je tiens effectivement à donner à la comtesse de Ségur, née Rostopchine, ses véritables lettres de noblesse, ses lettres de véritable écrivain. Avant de commencer réellement, je vais rappeler les dates de la comtesse de Ségur. Elle est née à Saint-Pétersbourg au mois de juillet 1799. Elle est morte à Paris, à l'ombre de la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement, le 9 février 1874. C'est une enfant russe, une aristocrate russe, qui, après bien des aventures, va se retrouver à Paris et femme de Eugène, le comte Eugène de Ségur. Elle sera une mère de famille comblée. Elle aura 8 enfants en 15 ans. Et son fils aîné sera le célèbre Monseigneur Gaston de Ségur. Alors comment est-ce qu'une femme de cette époque, de ce milieu, a-t-elle pu venir à la littérature? C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Et une fois qu'elle y a été, cette aristocrate franco-russe, eh bien, on va essayer de voir quelle est sa théorie littéraire. Je suis donc là pour justifier le statut d'écrivain de la comtesse de Ségur. Et je vais développer 3 idées. D'abord, que la littérature d'enfance est un véritable genre littéraire. La deuxième idée sera que nous avons affaire à un véritable auteur, à un véritable écrivain. Et la troisième idée, c'est que la littérature d'enfance est une littérature à part entière. Par littérature d'enfance, j'entends la littérature qui est conçue, écrite, publiée pour un public spécifiquement d'enfants. Je préfère le terme de littérature d'enfance au terme de littérature enfantine parce que cette appellation a peut-être une connotation péjorative. On pourrait penser une littérature puérile. La littérature d'enfance est un genre donc à part entière et on peut remonter à Charles Perrault qui, dans sa préface d'un ouvrage intitulé « Contes en vers », paru en 1695, estime que dans ces ouvrages, destinés aux enfants, il faut instruire et divertir tout ensemble. Mais là, à cette époque, le public des enfants n'était pas encore réellement défini. Les enfants pouvaient lire ces ouvrages, mais les adultes également. Sensiblement à la même époque, La Fontaine, dans la préface de son édition de fables, définit ainsi ce qu'il écrit. « Ce sont des badineries qui portent en elles un sens très solide, qui ne sont pas seulement morales, mais qui donnent aussi d'autres connaissances. » Alors on commence un petit peu à essayer de définir ce qu'il faut donner à un jeune public sous une forme littéraire agréable. Donc l'idée c'est que Charles Perrault veut divertir et que La Fontaine souhaite instruire. Cependant, la reconnaissance de l'enfant en tant que lecteur à part entière, en tant que lecteur spécifique, ne vient pas de France, mais de Grande-Bretagne. Et c'est en Grande-Bretagne, en effet, que en 1745, un Londonien du nom de John Newbery a décidé d'ouvrir une librairie qui était consacrée uniquement à des livres écrits uniquement pour des enfants. C'était un libraire-éditeur et son magasin s'intitulait « La Bible et le Soleil ». Donc, si les enfants d'aujourd'hui ont des livres à leur disposition, eh bien, ils le doivent à ce John Newbery qui s'est rendu compte qu'il y avait là un créneau, dirait-on aujourd'hui, tout à fait intéressant et qu'il fallait s'occuper d'eux. En France, ce sera plus tardif. Et là, je vais citer le nom d'un personnage que tout le monde connaît, c'est Monsieur Pierre-Jules Hetzel, qui a décidé, un siècle plus tard, vers 1850, de créer un journal qui s'appellerait le nouveau Magazine des enfants. Donc l'idée, c'est que l'enfant, en tant que public, en tant que lecteur privilégié, vient de Grande-Bretagne. Et qu'en France, ce sera dans les années de 1850. Et là intervient l'histoire à proprement parler. L'enfant est donc un lecteur potentiel. Et en plus, à l'époque, c'était le Second Empire, en plein Second Empire, il y a le fameux prince Louis, le petit Loulou, le prince Loulou, qui est tout à fait en vogue et tout à fait populaire. Et lui, le prince Loulou, contribuera énormément à la reconnaissance de l'enfant. Il y a un enfant au palais des Tuileries, il est charmant, il est joli, on le photographie en tenue de zouave, en petit gardien de chèvre, dans toutes les tenues possibles que l'on peut imaginer. Et les mamans se disent, tiens, moi aussi j'ai des enfants, je peux peut-être les habiller de cette manière. Et on se met à s'intéresser de près à l'enfant. Enfin, on ne l'habille plus comme un petit adulte. On lui va lui créer des vêtements spécifiques. De la même manière, avant, il n'y avait pas réellement de jouets. C'est à cette époque aussi qu'apparaissent en France les industries de jouets. On fait des petits sabres, on commence à fabriquer des poupées. Ça date vraiment de cette époque. En plus, toute cette reconnaissance de l'enfant est soutenue par l'imagerie d'Épinal. On va faire des images à découper, des images coloriées. Ce sera pour ce public des enfants. Le créneau existe donc, eh bien, on va s'en occuper et les industriels s'y intéressent de fort près. Alors, la littérature d'enfance doit donc s'occuper de ce public spécifique et la littérature d'enfance aura pour but, bien sûr, de former. On ne peut pas imaginer une littérature qui apprendrait à voler, à mentir, à faire des tas de bêtises. Le but premier, c'est toujours de former moralement. Peut-être que la grande championne du genre, ce sera la comtesse de Ségur. Mais avant de commencer à parler des textes même de la comtesse de Ségur, je vais vous rappeler comment la comtesse de Ségur est venue à écrire et à publier. La comtesse de Ségur avait deux petites filles modèles, Camille et Madeleine de Malaret, qui d'ailleurs se trouvent là, les deux photos. C'était les filles de sa fille Nathalie. Et ces deux petites filles, Camille et Madeleine, avaient un père qui avait été nommé secrétaire de l'ambassade de France à Londres. Et les pauvres petites Camille et Madeleine étaient désolées de ne plus pouvoir écouter leur grand-mère leur raconter des histoires. La comtesse de Ségur, toujours pleine d'idées, a décidé d'écrire sur un cahier les histoires que jusqu'alors elle leur racontait et a envoyé ce cahier à Londres. Les parents ont lu ces histoires, de fil en aiguille, elle a été amenée à présenter un manuscrit à Hachette et elle a écrit 23 romans et c'est grâce à elle, j'ose le dire, que la maison Hachette existe encore de nos jours parce que au début c'est elle qui a fourni le grand fond des romans pour les enfants. Alors, la comtesse de Ségur va donc former le jeune public. Et pour former le jeune public, eh bien, elle va développer une certaine morale. Bien sûr, les méchants seront punis et les bons récompensés. Quoi de plus normal? On ne peut pas s'en scandaliser. C'est tout à fait bien. Je rappellerai pour le plaisir le sort que la comtesse de Ségur réserve aux tourneboules qui vont finir leur jour en Amérique. C'est un lieu épouvantable. L'Amérique, pour la comtesse de Ségur, elle imagine des tas de choses horribles. Et Mademoiselle Jaume, c'est bien les tourneboules qui partent. D'un seul coup, je suis prise d'un tout. Ça a mal tourné, alors ils sont revenus. Oui. Monsieur Tourneboule a été cuisinier, oui, c'est ça. Leur horrible fille est morte à l'hôpital après avoir été actrice. Là, tout est dit. Bon, alors, les exemples de morale abondent. Je vous rappelle celui-ci parce qu'il est plus drôle que tous les autres. La comtesse de Ségur aussi va développer le thème de l'autorité. L'autorité est nécessaire, l'autorité doit être respectée, mais l'autorité doit aussi se manifester d'une manière intelligente. Et là, je dirais que l'on devine une nuance dans le terme d'autorité tel que le conçoit la comtesse de Ségur. En effet, je vais rappeler l'idée qu'avaient les anciens romains de l'autorité. Ils avaient deux termes tout à fait différents et tout à fait précis. Il y a d'une part la potestas, le pouvoir, et d'un autre côté la auctoritas, l'autorité. Et entre les deux, il y a une grosse différence, c'est que la potestas, le pouvoir, est acquis par des charges, tandis que l'auctoritas va émaner naturellement de la personne. Et justement, la comtesse de Ségur salue cette autorité, cette auctoritas, qui est toute naturelle. Et l'exemple parfait, c'est Madame de Fleurville, qui est tout à fait gentille, mais qui sait aussi se faire respecter. Et dès qu'elle arrive quelque part, tout est résolu. Les enfants la respectent, tout le monde l'aime bien, mais elle a quand même une certaine autorité. Mais elle n'a pas la potestas violente, par exemple, de Madame Ficini, pour ne citer qu'elle. La comtesse de Ségur a aussi un faible pour les gendarmes. Ils sont toujours très très bien, les gendarmes. Ils arrivent au bon moment, agréables, vraiment de bons gendarmes. Les militaires aussi ont la part belle. On peut justifier cette présence des militaires par sa propre vie. Enfin, son père a été un grand militaire. Le comte Fiodor Rostopchine, il a été un grand homme politique aussi, puisqu'il a été le premier ministre du tsar Paul Ier. Donc les militaires ont la part belle. Pour mémoire, je citerai le cher Dourakin, le bon ogre, un peu brutal, non, enfin quand même très très bon de la Bibliothèque Rose. Donc morale, autorité, avec cette nuance vraiment de potestas et d'auctoritas à laquelle je tiens beaucoup, parce que ce n'est pas une autorité stupide de pouvoir. C'est une autorité naturelle, un certain bon sens qui doit être respecté. Pour former aussi le jeune public, eh bien, on évoquera le problème de la hiérarchie. Dans le monde de la comtesse de Ségur, dans le monde de Fleurville, tout le monde est à sa place. Et c'est ce qui fait que la lecture de Madame de Ségur est tellement reposante. Les personnages sont tous bien dans leur rôle, les domestiques sont heureux d'être domestiques, les maîtres heureux d'être maîtresses et maîtres de ces domestiques. Les enfants sont heureux d'être enfants, enfin c'est un rêve, un véritable rêve. Et je citerai pour mémoire la phrase de Elisa, la bonne idéale, des idéales petites filles. Elle leur déclare, alors que les petites filles modèles veulent les fêter ou les inviter à leur table, Elisa leur rappelle, une bonne est une bonne et une bonne doit rester à sa place. De la même manière, pauvre Blaise, ce petit enfant qui est un véritable saint, un saint de l'enfance, eh bien, il déclare « Je n'ai besoin de rien, je ne veux pas sortir de ma condition, je gagnerai mon pain comme l'a fait mon père. » Vous voyez, quand on leur donne la parole, ils sont tout à fait ravis. C'est un monde harmonieux, un monde de hiérarchie. La hiérarchie ne les brime pas, parce que toujours, la comtesse de Ségur salue et soutient l'idée du respect d'autrui. Il y a ce respect qui rend la hiérarchie tout à fait supportable. Tout à fait bonne. La comtesse Ségur donc forme, ça ce sont vraiment les trois idées les plus immédiates qui viennent à l'esprit, morale, autorité et hiérarchie. Dans les mises en scène, la comtesse de Ségur respecte aussi son public. Ce sont des enfants certes, mais c'est aussi de jeunes intelligences, de jeunes esprits qui sont là pour lire un véritable roman, et la comtesse de Ségur va imaginer de véritables mises en scène. Elle a une imagination merveilleuse. Elle a des mises en scène très amusantes, très réalistes. Même dans son premier ouvrage intitulé Les Contes de Fées, la comtesse de Ségur demeure un écrivain réaliste. Elle veut parler vrai, elle veut mettre en scène avec beaucoup de naturel la vie telle qu'elle est, la vie vraie. On peut reconnaître aussi à la comtesse de Ségur son respect fort classique de l'unité de temps, de lieu et d'action. Chaque chapitre est construit sur ce respect classique de littéraire. À l'intérieur d'un même roman, il peut y avoir des lieux différents, mais chaque chapitre est construit d'une manière très classique. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un trait de caractère littéraire. Si je vous dis que c'est la Normandie qui sert de toile de fond à la majorité de ses ouvrages, et c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'elle varie les décors pour les deux Nigauds, où c'est la capitale qui sert de décor. Et pour le général Dourakin, eh bien, c'est la Russie. Mais sinon, la comtesse de Ségur se sert de ce qu'elle a. Elle vit en Normandie, dans l'Orne. Eh bien, elle va se servir de cette nature qui s'offre à elle. La comtesse de Ségur aussi, dans ses romans, dans ses constructions littéraires, est tout à fait riche en repères sociologiques. L'enfant, le lecteur, adulte ou petit, retrouvera toujours avec plaisir le château, avec son orangerie, les fermes avec les fermiers un petit peu plus loin, les domestiques avec chacun leurs fonctions. C'est un véritable corpus de personnages littéraires qu'elle met en scène dans chaque roman. Et là, elle agit vraiment comme un véritable romancier qui s'adresse à des adultes. La reconnaissance littéraire de la comtesse de Ségur a été soutenue et aidée par le fait que ses ouvrages supportent une lecture double. Par lecture double, j'entends le fait que si on a la tentation de relire, passé 15 ans, les ouvrages de la Bibliothèque Rose, eh bien cette lecture sera possible. Un adulte trouve infiniment de plaisir à relire la comtesse, ou à la lire, tout simplement à la découvrir, qu'un enfant. Bien sûr, les motifs seront sans doute différents, mais ils existent. Et pour illustrer mon propos, je parlerai de la malheureuse Zénaïde Fleuriot. Je dis bien la malheureuse Zénaïde Fleuriot, parce que à l'époque, elle était très connue. Et actuellement, elle est, je ne peux pas dire inconnue, mais elle est très peu lue, très peu relue. Et effectivement, quand on l'a lu enfant, on est enchanté, mais si on la relit plus tard, on se dit que c'est quand même un petit peu court, hein, ces histoires. Il n'y a pas ce souffle littéraire d'une création réelle, comme chez la comtesse de Ségur. La pauvre Zénaïde Fleuriot ne supporte pas la relecture adulte. Alors que la comtesse de Ségur, elle agace peut-être certains, elle passionne d'autres, mais elle ne laisse pas indifférent. Et c'est une reconnaissance aussi de la comtesse de Ségur en tant qu'écrivain que de l'avoir republiée dans la collection Bouquins. Alors le bouquin, c'est un premier pas vers la Pléiade. Et la Pléiade, c'est quand même la reconnaissance littéraire de ces écrivains. Alors cette lecture double est vraiment le premier symptôme d'une réelle existence littéraire, d'une existence d'auteur de la comtesse de Ségur. Et je pense que la comtesse de Ségur aurait pu aller plus loin dans ses romans. Quand je dis aller plus loin, c'est-à-dire pousser à l'extrême le goût qu'elle avait d'une certaine gourmandise de vie, d'une certaine volupté de vie. Elle se contente d'en parler dans La Crème et le Pain Bis, mais on peut très bien imaginer une plume beaucoup plus vigoureuse. Elle aurait pu écrire pour adultes, entre guillemets, elle aurait pu écrire des romans où elle aurait poussé plus loin ce goût de la vie, même son goût de la violence. On lui a tant reproché les scènes de violence. Eh bien, peut-être que si elle avait pu écrire pour des adultes à une autre époque, elle serait allée beaucoup plus loin, elle aurait franchi peut-être certains caps. Alors elle a été retenue par son milieu, en partie aussi par son fils, Monseigneur Gaston de Ségur. Malgré tout le respect que je dois à Monseigneur Gaston de Ségur, je lui reproche quand même un petit peu d'avoir bridé sa mère, en quelque sorte, parce qu'il a veillé toujours à relire. Surtout dans la deuxième partie de la vie de la comtesse de Ségur, Monseigneur Gaston de Ségur a toujours souhaité relire les manuscrits. Et quand sa mère allait un petit peu trop loin dans des scènes un peu trop violentes ou un peu trop pleines d'imagination, eh bien, il était là pour ramener à plus de sagesse. Et c'est dommage. D'ailleurs, les lettres qui sont conservées montrent bien que Gaston avait un rôle très important. Elle soumettait d'ailleurs toujours son manuscrit à son fils. C'est ce qui me permet de parler d'une comtesse de Ségur première manière et deuxième manière. La première manière, c'est la comtesse de Ségur de Fleurville. Ah, c'est un rêve. Tout le monde est merveilleux, mais il y a quand même des scènes très violentes. Il y a des loups, il y a des choses horribles. Et la deuxième manière, c'est la comtesse de Ségur de François le Bossu, de Pauvre Blaise, où il y a une tendance moralisatrice qui n'existait pas au début. Et que j'attribue, c'est tout à fait personnel comme idée, aux interventions de son fils. Pauvre Blaise, c'est quand même peut-être un rêve pour les parents, mais un cauchemar pour les enfants, Blaise. Dans vos souvenirs, la comtesse de Ségur la plus attachante, peut-être, c'est celle des Malheurs de Sophie. Ah, et c'est peut-être la plus attachante parce que c'est aussi l'œuvre la plus autobiographique. Elle se met en scène elle-même. Dans le premier manuscrit, c'était une petite Marie qui était le prénom de l'héroïne, et puis elle a biffé très proprement, elle a mis Sophie. C'est autobiographique et on sent un élan, un enthousiasme, une plume qui ne demandait qu'à galoper et qui a été un peu brimée par la suite. Mais néanmoins, j'aime beaucoup tous les ouvrages de la comtesse de Ségur, mais je privilégie peut-être Fleurville. Alors je voulais juste vous lire une lettre dans laquelle la comtesse de Ségur parle de ce manuscrit qu'elle a soumis à son fils Gaston. Monseigneur Gaston de Ségur, pardon. C'est vrai, j'ai trop tendance à l'appeler Gaston. La comtesse de Ségur écrit le 6 avril 1865 à sa fille Olga. C'est-à-dire qu'ayant lu à Gaston Jean qui rit, nous avons trouvé, indépendamment des corrections de langage, etc., une réforme générale à faire sur le ton trop familier des domestiques et trop amical des maîtres. Ils sont trop camarades. C'est tout à revoir deux fois. Peu de pages à réécrire, mais une foule de mots, d'expressions à changer. Il faut donc que je lise et corrige du matin jusqu'au soir. Je ne sors que pour la messe, je ferme ma porte, je ne vais chez personne. J'ai à peine le temps de manger. Adieu, chère petite, je retourne à ma galère. C'est magnifique, c'est un style vivant, charmant, merveilleux. Mais vous voyez qu'il y a des remarques sur justement ce ton peut-être trop amical, domestique et maître, que son fils, Mgr Gaston de Ségur, lui reproche légèrement, et finalement elle va le changer. Je crois que foncièrement, la comtesse de Ségur, en tant que Sophie Rostopchine, eh bien, était plus originale que l'image que l'histoire a bien voulu véhiculer d'elle. Je crois que c'est une personne passionnée, violente, pleine de défauts, peut-être gourmande, pleine de vie, oui. Elle est très sympathique, mais elle a été un peu jugulée. Pour soutenir l'idée que la comtesse de Ségur est un véritable écrivain, je dirais aussi que lorsqu'on lit tous ses ouvrages, on voit deux obsessions réellement littéraires qui reviennent. C'est l'obsession, le thème, la récurrence de la forêt et du feu. Alors, le feu, on peut facilement peut-être faire un lien avec l'incendie de 1812, incendie de Moscou, auquel elle a assisté, et les historiens sont maintenant à peu près d'accord entre eux pour admettre que c'est son père, qui était alors gouverneur de la ville, qui a ordonné l'incendie. Bon, ce sont de grandes frayeurs, de grands spectacles qu'elle n'a pas oubliés. Et il y a véritablement une obsession du feu chez la comtesse de Ségur. Je vous cite pour mémoire les chapitres. Il y a un chapitre consacré à un incendie dans les mémoires d'un âne. Et là, je n'aurais pas sollicité longtemps vos mémoires pour vous rappeler Cadichon, enlevant Pauline des flammes. Il y a aussi deux chapitres terribles dans François le Bossu. Et là, c'est vraiment un moment grandiose de littérature. Le jour baissait et Monsieur de Guibert avait fait allumer les lanternes du bateau. Les parents étaient partis à une soirée chez des amis et ils y vont en bateau. C'est très très joli. Alors, les lanternes du bateau qui faisaient un effet charmant. Elles étaient en verre de différentes couleurs et formaient lustre au debout du bateau. Alors ça, on peut presque voir dans le texte l'annonce des flamboiements dus à l'incendie. Alors les parents arrivent tranquillement de leur soirée et ils sont accueillis par des hurlements. Un grand cri, cri de détresse et de terreur, interrompit alors sa phrase inachevée. À une mansarde du château, éclairée par les flammes, apparurent deux têtes livides, épouvantées, criant au secours. C'était Maurice et Adolphe, messieurs de Cibran, des Ormes, et les domestiques étaient en bas. Leur cri d'épouvante avait répondu aux cris de détresse des enfants. Monsieur de Cibran se laissa tomber par terre. Monsieur des Ormes, les mains jointes, la bouche ouverte, répétait « Mon Dieu, mon Dieu !» Mais ne bougeait pas. Les domestiques criaient et couraient. Maurice s'élança par la fenêtre et tomba maladroitement, moitié sur le matelas et moitié sur le pavé. Monsieur de Nancy se baissa pour le retirer et faire place à Adolphe. Mais avant qu'il eût le temps de l'enlever, Adolphe se jeta aussi et vint tomber sur les épaules de son frère, qui poussa un grand cri et perdit connaissance. Alors voyez les conséquences atroces de cet incendie. Je vous ai fait grâce du détail de l'incendie, vous le relirez peut-être vous-même. Il y a deux chapitres donc consacrés à l'incendie. Autre récurrence littéraire chez la comtesse de Ségur, c'est la forêt. Et là, tout le monde a à l'esprit, dès les malheurs de Sophie, l'attaque par un loup. Alors là, on est en Normandie, mais il y a des loups. C'est tout à fait normal. Et puis, il y a une petite note. Et non, c'est pas une petite note dans le chapitre consacré, justement, à la scène de la forêt. La forêt s'appelle la forêt de Svetine. Alors, il y a une réminiscence russe. C'est bien la preuve que c'est quand même autobiographique, hein, ces malheurs de Sophie. Alors, la forêt, nombreuses aventures, toujours terribles, bien sûr, pour les enfants de la bibliothèque rose qui vont se promener, qui vont cueillir des fraises des bois, ça se termine toujours très mal. Mais la pire aventure, c'est dans les vacances, quand Sophie tombe dans un arbre creux. Il joue à cache-cache et on a dit qu'on pouvait se cacher partout sauf dans les arbres, parce qu'on risquait de tomber dans un arbre creux. Bien entendu, Sophie va dans l'arbre et risque de mourir. Et ça, c'est terrible parce que c'est une mise en scène en abîme. Il y a Sophie dans son tronc d'arbre. Autour, il y a les enfants qui sont cachés, donc les regards cachés. Et regardant toute la partie de cache-cache, il y a le fameux vagabond qui va être reconnu plus tard, qui sera le Normand. C'est un jeu de regards qui se croisent et s'ignorent. Les petites filles modèles aussi disent « Allons dans la forêt. » Ah non, il nous arrive toujours des malheurs. Vous vous souvenez aussi de Sophie et de Marguerite, perdues. Perdues et retrouvées par le bon boucher Hurel, qui va les déloger de leur arbre. Alors le deuxième moment de cette causerie, c'était, j'avais envie de parler de la comtesse de Ségur en tant que véritable auteur, c'est-à-dire qu'elle a des questions, des angoisses d'auteur, non pas l'angoisse de la page blanche, mais elle se sent investie d'une vocation littéraire et il faut qu'elle écrive des choses agréables à lire, intelligentes et non pas des mièvreries. Elle respecte profondément son jeune public. Alors figurez-vous que la réception de l'œuvre de la comtesse de Ségur, la réception, c'est-à-dire l'accueil qui a été réservé au moment où elle a publié ses premiers ouvrages, a été excellent. La comtesse de Ségur a publié ses premiers ouvrages chez Hachette et Hachette avait jugé bon à cette même époque de créer la collection des chemins de fer. C'est la grande époque du développement des voies ferrées et on s'ennuie toujours dans le train, on a toujours envie d'un livre, en général on l'oublie et on l'achète à la dernière minute sur le quai. Il faut donc qu'il y ait des libraires dans les gares. Hachette pense aussi à ce créneau, je dis mais c'est merveilleux, on va créer une collection, la collection des chemins de fer. Il y aura plusieurs genres. La collection avec la couleur saumon sera réservée au jardinage. La couleur verte sera réservée à des tas d'élevages de bestiaux. Et la couleur rose sera dévolue aux enfants. Et voilà comment la bibliothèque rose est née. Il y avait 7 catégories. Donc, pendant que les parents avaient des ouvrages plus raisonnables, bien les enfants avaient aussi leur petite collection. Et il faut dire aussi que le mari de la comtesse de Ségur, le comte Eugène de Ségur, était président des chemins de fer de l'Est. Elle a eu un grand succès, bien sûr. Les enfants veulent tous lire les volumes de la comtesse de Ségur. Mais figurez-vous qu'il y a eu des réserves morales. C'est inouï, mais il y a une lettre conservée chez Hachette. Un lecteur se plaint de certaines remarques qui ont été faites dans l'auberge de l'Ange Gardien. Vraiment ? Je vais vous lire exactement la réponse de la comtesse de Ségur. Elle répondait très bien. La réponse de la comtesse de Ségur à Hachette à propos de cette lettre. Voilà, Monsieur Barrault donc écrit « Nous avons dû, depuis quelque temps, promettre à un certain nombre de nos souscripteurs d'écarter toute peinture de sentiment, quelque légitime qu'il soit, qui a pour but le mariage, et d'en dissimuler les manifestations, même les plus innocentes. » À cela, la comtesse de Ségur rétorque « Je persiste à dire et à penser, appuyé de nombreux et sages avis, que les scrupules de M. Barrault sont mal fondés, qu'il faut avoir une imagination déréglée et extraordinairement susceptible pour se monter à la lecture de sentiments innocents, doux et sages qu'on trouve dans l'Ange gardien. » Alors il y a aussi une autre lettre qui fait état d'une lecture peu convenable pour les petites filles. Toujours l'auberge d'Ange Gardien. Alors, je ne sais pas ce que dirait M. Barrault actuellement. Il tomberait en catalepsie. Je pense. C'est étonnant. Mais la comtesse avait une plume vive et elle répondait, comme vous l'avez vu, avec humour et fermeté. La réception, donc, à l'époque, elle était excellente, avec quelquefois des petites réserves de ce genre, mais c'est plus pour l'anecdote. Mais il y a 30 ans, la comtesse de Ségur a traversé un purgatoire. La malheureuse a été cataloguée auteur malsain pour la jeunesse, non pas pour l'auberge d'Ange Gardien qui évoque des mariages, mais pour d'autres choses, pour des fessées. Et la pauvre comtesse a été allongée sur le divan du psychanalyste et on lui a fait dire n'importe quoi. Alors, à cela, je répondrais que, premièrement, si on peut psychanalyser un texte, c'est déjà qu'il est assez riche. Pour cela, c'est donc déjà rendre hommage. Deuxièmement, que les fessées multiples dans l'œuvre de la comtesse de Ségur sont toujours le fait des parents dépassés et des mauvais parents. Donc elle ne fait pas l'apologie de la fessée. Elle montre ce qu'il ne faut pas faire. On dit oui, bien sûr, mais elle éprouve un certain plaisir à montrer ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ça me semble vraiment innocent. Et même si on dit, oh, elle avait sans doute une sensualité bizarre, moi, je dirais, on ne peut pas dire, on ne peut pas juger. Et, À quoi bon ? Je suis assez indulgente pour ça. Je ne vois pas de quoi la condamner. Mais heureusement, donc, la comté de Ségur remonte, si j'ose dire, dans les sondages, et les enfants la lisent toujours avec plaisir. Et il y a un volume qui est toujours en rupture de stock chez tous les libraires, c'est Les Malheurs de Sophie. Ah non, ça, il faut le commander. C'est très amusant de voir que Les Malheurs de Sophie sont l'ouvrage le plus lu. Mais je dirais que la comtesse de Ségur l'a atteint vraiment une perfection littéraire merveilleuse. Et je n'hésite pas à dire que la comtesse de Ségur, avec ses Malheurs de Sophie, est un écrivain grand siècle et qu'elle rappelle tout à fait les caractères de la Bruyère. Parce que chaque chapitre est consacré à un défaut, tout à fait de la même manière que les caractères de la Bruyère sont consacrés, chaque paragraphe, à un défaut. On a Onuf ou le Fat, Gnaton ou l'égoïste. Eh bien, chez la comtesse, nous avons Sophie était colère, Sophie était colérique, Sophie était coquette. Chaque chapitre est vraiment consacré à un défaut avec une petite morale. Et ça me fait penser tout à fait au caractère de la Bruyère. Et mis à part cette ressemblance, le style de la comtesse de Ségur est style grand siècle, 17e siècle. Surtout dans l'œuvre des débuts. C'est vrai qu'à la fin, avec Pauvre Blaise, elle perd un peu cette plume 17e siècle, elle se 19e mise plus. Mais la plus belle plume Ségur, c'est Fleurville. La réception est donc excellente à son époque. Actuellement, elle revient en force avec bouquins. Et même, je dirais, les adaptations cinématographiques, même si elles laissent à désirer, eh bien, c'est quand même la preuve que la comtesse de Ségur est vivante. Quant à sa reconnaissance littéraire, eh bien, je peux vous dire que cette reconnaissance date du centenaire de sa mort. Depuis 1974, en effet, on s'intéresse à la comtesse de Ségur avec sérieux. La comtesse de Ségur est citée dans le précis de littérature comparée de M. Pierre Brunel. La comtesse de Ségur est citée aussi dans le trésor de la langue française, donc avec des exemples précis extraits de ses ouvrages et avec des sens particuliers donnés aux termes qu'elle emploie. Vous voyez, ce sont des exemples officiels, académiques. J'ouvre une parenthèse, il y a un académicien qui est fou de la comtesse de Ségur, c'est Jacques Laurent, le père de Caroline Chéry. Il en est absolument fou. Et nous nous retrouvons parfois et nous parlons de la comtesse de Ségur et nous faisons presque un jeu de triviale poursuite de la comtesse de Ségur. D'ailleurs, c'est dans quel chapitre ? Comment s'appelle le petit chien qui était enfermé dans une buanderie ? C'est Biribi, alors tout ça. Oui, oui, c'est bien. Et on passe beaucoup d'heures. Vous voyez à quoi un académicien passe son temps avec moi. On reconnaît aussi à la comtesse de Ségur la qualité de son témoignage historique. C'est une fresque du Second Empire qui est là sous nos yeux. Grâce à la comtesse de Ségur, on a le détail, par exemple, du salaire d'un jardinier à l'époque. Et le jardinier, c'est Dillois le cheminot. On a des détails très très précis. Et la comtesse de Ségur aussi est reconnue comme écrivain par d'autres écrivains. Et parmi eux, je citerai François Mauriac, qui était très ému à la lecture de la comtesse de Ségur et qui évoque le souvenir de ses lectures dans un ouvrage intitulé « La toge prétexte ». Il parle de la comtesse de Ségur. Et il y a aussi un autre écrivain, Simone de Beauvoir, qui, bien que fortement agacée par la comtesse de Ségur, elle le dit dans ses « Mémoires d'une jeune fille rangée », elle dit « La comtesse de Ségur m'agaçait, mais je reconnais que lorsque j'étais petite, j'étais folle des Malheurs de Sophie et que le premier écrit que j'ai fait quand j'avais 6-7 ans, je l'avais intitulé « Les Malheurs de Marguerite ». Elle avoue aussi avoir appris, grâce à la comtesse de Ségur, la précarité de l'amour. Et elle se dit très déçue de lire dans l'épilogue des Malheurs de Sophie que Sophie n'épousera pas son cousin Paul. Elle dit « Oh mon Dieu, comme c'est triste, j'avais toujours imaginé, j'avais rêvé de ce mariage et il n'arrive pas ». Et elle le dit d'une manière très jolie, elle dit « Oui, j'ai appris la précarité de l'amour de la comtesse de Ségur ». Bon, c'est un témoignage, mais ça montre quand même que c'est une reconnaissance. De la même manière, Monterland aussi parle à plusieurs reprises de la comtesse de Ségur dans son ouvrage « Les célibataires ». Elle a une appartenance littéraire, elle a été formée à Saint-Pétersbourg par des lectures faites par Joseph de Maistre. Quand elle était avec sa famille, Joseph de Maistre venait et lisait. Alors je pense que même tout enfant, elle a été bercée par cette langue française grand siècle, et on la retrouve plus tard. Elle a un parler vrai, un parler naturel, Elle veut parler enfant comme on parle vrai. Et là, nous retrouvons les principes de Malherbe. Dans sa défense de la langue française, Malherbe déclare « Il faut parler vrai, il faut parler comme les charretiers de porc au foin quand on s'adresse à eux. » Malherbe était pour la reconnaissance du parler qui était vivant. Et ne pas s'accrocher à un langage français qui était dépassé, il faut parler la langue du jour. Et en cela, la comtesse de Ségur, quand elle déclare « Il faut parler enfant », eh bien, elle retrouve Malherbe. Donc vous voyez qu'elle a quand même une belle famille littéraire entre La Bruyère, Malherbe et même La Fontaine et Perrault. Et enfin, le troisième point, et ce sera là la fin de mon exposé, la comtesse de Ségur est un véritable auteur dans la mesure où elle va édicter les principes, les règles, les recettes de l'écriture. C'est dans Les Bons Enfants où elle expose sa théorie littéraire par le biais des deux petites filles. Les enfants ont eu comme idée de jeu de se raconter des histoires. Il y a eu un grand succès de l'histoire d'une petite Valentine. Madeleine dit « Oh, mais ce n'est pas toi qui l'as composée, n'est-ce pas Valentine ?»« Si, c'est moi. Quand donc l'as-tu faite ?»« En la racontant, j'inventais au fur et à mesure que je parlais. » Mais c'est superbe, c'est étonnant, jamais je n'aurais pu faire comme toi. Si tu essayes, tu verras que ce n'est pas si difficile. Eh bien, je dirais que là, nous avons peut-être la recette que la comtesse de Ségur a appliquée dans ses romans. C'est une écriture directe, les manuscrits sont là pour témoigner, il n'y a aucune rature. Ça coule de source, et peut-être faisait-elle comme la petite Valentine, elle parle et ça vient tout seul. Vous voyez, c'est quand même, je crois, un souci de la comtesse de Ségur, bien sûr, au niveau des romans pour enfants, mais d'établir les principes de la création. Autre témoignage, toujours dans Les Bons Enfants, un dialogue entre Henriette et Sophie. Alors, Henriette. « Merci Camille, mais je voudrais savoir ce qu'en pense Sophie. Pourquoi moi plutôt que les autres ? Parce que les autres feraient comme Camille par bonté, mais toi, tu diras franchement ce que tu penses. » Oh, bien, alors, tiens, franchement, elle est un peu bête, ton histoire. Henriette réplique, « Ah, comment, pourquoi ?» Et voilà Sophie, qui explique, la petite Sophie des Bons Enfants. « Eh bien, parce que Poussette, c'est l'histoire de Poussette, parce que Poussette est en même temps bonne et méchante, et qu'elle est punie d'une façon terrible, comme s'il était une scélérate. Parce que boursouflés et joufflus ne sont pas punis de leur tromperie envers leur maman, parce qu'ils se font voleurs, on ne sait pourquoi. » Parce qu'on ne coupe pas la tête des voleurs, mais qu'on les met en prison. Enfin, parce que rien dans ton histoire ne mène à rien. Et là, vous voyez, ces remarques de la petite Sophie des Bons Enfants, je crois, c'est tout à fait l'écho de la théorie littéraire de la comtesse de Ségur. Elle souhaite des histoires qui se tiennent, des histoires qui ne sont pas farfelues, complètement farfelues. Vous voyez, la petite Sophie dit « Non, on ne coupe pas la tête des prisonniers, on les met en prison. » Elle sent tout cela, la jeune Sophie des Bons Enfants. Alors, la comtesse de Ségur, de notre manière aussi, manifeste son goût, son sentiment d'auteur, vraiment, en étant très attachée à son texte. Et voilà ce qu'elle écrit à Hachette. Quand Hachette lui propose de changer des phrases, ou de dire « ça, c'est pas très bien, j'ai plutôt mis cet adjectif à votre place ». Mais la comtesse de Ségur n'aime pas du tout ce genre de choses. Elle écrit de manière très vive. Paris, 16 mars 1858. L'auteur étant homme peut faillir. Le droit de remontrance est sans doute acquis à l'éditeur qui règne en despote sur ses auteurs. Mais le droit de retranchement sans consentement de l'auteur me semble être tout nouveau et pas encore passé en usage. Elle a fait signer à Hachette un billet très précis le 2 avril de la même année dans lequel elle explique que la comtesse de Ségur se réserve seule le droit aux corrections. C'est un peu une vanité d'auteur, mais c'est un sentiment. C'est, non, c'est mon texte, je l'ai conçu de cette manière. Elle y est attachée, et elle le dit clairement. Elle dit aussi dans ses lettres qu'elle travaille vite, vite et bien. Si ça commence à accrocher, ça n'ira pas. Et il y a de très belles lettres de la comtesse de Ségur à sa fille Olga. La comtesse de Ségur est en Bretagne, à Kermadio, près de Sainte-Anne-d'Auray. Et elle a du mal avec François le Bossu. Le 7 novembre 63, j'ai commencé mon livre, Le Petit Bossu. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de plan, mais j'écris tout de même. Mais seulement, je crains pour ma réputation. La comtesse de Ségur aussi a eu vraiment une volonté de condamner la fiction et de favoriser toujours le naturel. Dans les mémoires d'un âne, Madeleine. Oh, ne crois donc pas de pareilles bêtises, ma pauvre Elisabeth. C'est une dame qui a écrit ses mémoires d'une poupée. Et pour rendre le livre plus amusant, elle a fait semblant d'être la poupée et d'écrire comme si elle était une poupée. Donc ici, c'est la référence aux mémoires d'une poupée qui ont été publiées effectivement par Madame Julie Gouraud, de son vrai nom Louise d'Aulnay. Et c'était donc un ouvrage qui était peut-être en concurrence avec les siens. Mais la comtesse Ségur ne manque pas une occasion, vous voyez, de montrer qu'elle condamne la fiction. Elle glisse cette remarque sur un ouvrage qui était alors d'actualité, Les mémoires d'une poupée. C'est vrai que c'est vraiment artificiel. Je les ai achetées, Les mémoires d'une poupée, je me suis dit, je vais quand même lire Les mémoires d'une poupée. Il est vrai qu'elles sont navrantes. C'est illisible. De la même manière, elle appelle au calme et à la modération sa fille Olga, qui s'est mise à écrire, Olga de Pitré. Et alors elle lui dit, « Chère petite, j'ai pu lire hier 80 pages de ton manuscrit. C'est fort joli, gai et entrain, mais il y a beaucoup de mots à adoucir. » Vous voyez, quand on dit que la comtesse Ségur est brutale, les lettres le démentent. « Les épithètes demandent généralement à être modérées. Du reste, c'est très bien, et je suis sûre que ce volume amusera beaucoup les enfants. Mais il faut le lire jusqu'au bout et faire la table des matières que tu as oubliées. La dédicace a subi une rude métamorphose. Personne ne doutera que tu m'as fait lire ton texte avant de le publier. Les éloges excessifs que tu me donnes ne peuvent rester. Le calme, souligné, même dans une plume filiale, est toujours plus persuasif et plus insinuant que l'éloge passionné. » Plus loin, elle dira encore, « À quoi servent les épithètes brutales, sinon à témoigner de la mauvaise éducation des gens qui s'en servent et de leur peu de charité ? Une personne bien élevée éloigne de son vocabulaire certains épithètes vulgaires, comme coquin, canaille, etc. » Vous voyez que tout cela contribue à donner de la comtesse de Ségur une image de véritable auteur. Elle donne des conseils, elle a des principes de construction. Pas de fiction, du naturel, pas d'épithètes violents, pas de gros mots comme canaille. Cette chère comtesse de Ségur a créé un monde romanesque. Il y a aussi quelque chose d'important dans son œuvre romanesque, c'est le retour de certains personnages. Ça aussi, c'est un symptôme, je dirais, d'une œuvre littéraire. Comme dans la comédie humaine de Balzac, il y a des personnages qui reviennent. Eh bien, la comtesse fait la même chose, en particulier dans la trilogie. Eh bien, Madame de Rosemont revient. L'histoire de Sophie est donnée au sein de la trilogie, mais il y a des retours de personnages. Ça, c'est très important. Et même dans Les bons enfants, il y a un retour de Madame de Fleurville qui est appelée différemment. Donc elle avait, je pense, le concept de faire une œuvre littéraire avec des retours de personnages, de créer des types. Enfin, le cycle Fleurville, à cet égard, est le plus flagrant. Et enfin, en conclusion, je pourrais dire que la comtesse de Ségur a donc créé un monde, une langue, et elle parvient à justifier l'idée d'une œuvre littéraire. Effectivement, tout le monde a à l'esprit les premiers mots des Malheurs de Sophie, qui sont « ma bonne ». Eh bien, ces deux termes, « ma bonne » évoquent dans tous les esprits le monde de la comtesse de Ségur, un peu comme le « je parle à mon bonnet » du malade imaginaire. Il y a comme ça des phrases qui immédiatement rameutent des souvenirs. Et le « ma bonne », eh bien, c'est toute la comtesse de Ségur qui est là. C'est un monde spécifiquement Ségur qu'elle a créé, elle a griffé ce monde, et puis elle a surtout reconnu à l'enfant une véritable existence de public. Elle respecte l'enfant profondément. La comtesse de Ségur a pris le prétexte innocent et souriant de la littérature d'enfance pour venir à la littérature et pour écrire. Oui, elle a toujours parlé français. Les précepteurs en Russie étaient français et venaient en particulier de la région de Besançon. D'ailleurs, le comte Rostopchine était très heureux après toutes les aventures qu'il a eues. Il est arrivé à Paris après les événements de l'incendie de Moscou. Le tsar n'avait pas reconnu l'acte fou qu'il avait commis et lui avait conseillé d'aller prendre les eaux, ce qui était une manière polie de lui dire « débarrasser le plancher ». Et il est parti en Allemagne. Il était salué comme un sauveur, puisque par la chute de Bonaparte, il avait permis le retour de la monarchie. On se coiffe à la Rostopchine. Tout le monde veut avoir Rostopchine à sa table. Il arrive en France. Oh, nouveau salut, reconnu par la cour. On l'invite. Et il est ravi d'être à Paris. Et c'est ainsi que, se trouvant si bien à Paris, il s'installe et fait venir sa famille. Vous savez que j'ai fait pleurer Bérégovoy avec Gérald Dourakine au Salon du Livre. Il s'est approché du livre, les larmes aux yeux. Il m'a dit « Oh mon Dieu, la comtesse de Ségur, née Rostopchine. » Oui. Et il a dit « Mon Dieu, les mémoires d'un âne. » Alors, larmes, je suis un peu gênée, je lui offre le livre. Et il me dit « Mais vous savez que je suis d'origine russe et qu'on ne devrait pas m'appeler Bérégovoy, mais Bérégovoy. » Parce qu'on ne dit pas Tolstoy, mais on dit Tolstoy. Ça a été l'unique vision que j'ai eue de feu Monsieur Bérégovoy.
Et combien de traductions, dans combien de langues elle est ?
Alors, elle a été traduite en anglais très peu, il y a seulement l'Auberge de l'Ange Gardien. Sinon, en portugais,
oui.
Tout.
Tout. Mais je pense qu'elle est traduite en beaucoup d'autres langues.
Mais écoutez, non, j'ai fait une recherche, non.
En italien, en allemand,
en russe ?
En russe, non.
Elle a commis une erreur, grosse erreur. Elle a vendu ses droits d'auteur à Hachette. Mais on n'a pas vu un centime. Et ça fait la fortune d'Hachette.
Actuellement, elle a vendu près de 30 millions.
Oui, nous avons la très bonne surprise ce soir d'avoir monsieur et madame Dupont qui sont des descendants de la comtesse de Ségur.
Vous descendez de...
D'une de ses filles, sa fille Henriette.
Qui avait épousé...
Le comte Armand Fresneau. La comte de Ségur était la grand-mère de mon grand-père, maternel. Mon grand-père nous racontait à mes frères et moi-même l'incendie de Moscou que lui racontait sa grand-mère. Sa grand-mère est morte, il avait 15 ans. Et mon grand-père est mort quand j'avais 15 ans, donc en 12 ans. Et plusieurs fois, il nous racontait un tas de choses. Dans notre famille, on dit la grand-mère de Ségur. Sa grand-mère et un tas de détails, des choses qui m'ont beaucoup amusé. Il nous reste quelques manuscrits, il nous reste des tableaux qui sont inédits. Et nous avons un tas de petits détails qui sont encore connus dans le grand public, mais que nous trouvons déjà dans une autobiographie que Mlle Strich a faite, qui montre très bien ce caractère. Elle était très russe. Elle appartenait à ces grandes familles russes. Son père, donc, était général contre Rostopchine. Il avait été officier à la cour de l'impératrice Catherine II. Il était aide de camp de son fils, Paul, qui est devenu le tsar. Il s'est montré d'une très grande fidélité, une fidélité intelligente, au grand-duc héritier et au tsar, ce qui, à l'époque, n'était pas courant. Beaucoup de jeunes officiers, sachant que l'impératrice détestait son fils, l'avait pratiquement exilé à une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, à la Gatchina, donc méprisait le prince héritier et se moquait de lui. Et il y avait un seul lieutenant à l'époque qui s'est dévoué au grand-duc, et lorsque le grand-duc était tsar, il l'a appelé à son service, et peu à peu, ben, il a monté en grade, il en a fait un général et son premier ministre. Et petit détail, Sophie Rostopchine a eu pour parrain le tsar de Russie, Paul Ier. Oui. Elle a passé peu de temps à Saint-Pétersbourg, puis son père est tombé en disgrâce du tsar Paul Ier, qu'il allait regretter, il en est mort, le pauvre assassiné. Et on peut penser que si Rostopchine était resté près de lui, la cabale qu'il y avait autour n'a pas pu arriver à ses fins. Enfin, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Et Fiodor Rostopchine est resté chez lui aux environs de Moscou, au château de Voronovo. Et étant à Moscou, il a donc été un des artisans de la défaite de Napoléon. Ce n'est que pour des raisons politiques intérieures de Russie qu'il est arrivé en France. Le tsar Alexandre Ier, le fils de Paul Ier, qui a, dit-on, ce n'est pas absolument prouvé, trempé plus ou moins dans la scène de son père. Il était sans doute partisan d'éloigner son père du pouvoir en lui exigeant une abdication. Donc il avait donné la bénédiction, mais je ne crois pas qu'il soit présent. Ça a mal tourné, Paul Ier est mort. Mais donc, comme Rostopchine était l'éminence grise de Paul Ier, il s'est exilé lui-même pour ne pas avoir d'ennui, parce que les tsars à l'époque avaient la main ferme, et quand on ne plaisait pas, on se retrouvait en Sibérie. Oui, elle parlait français, bien sûr. Vous disiez une chose très juste, monsieur, qu'on parlait français à la cour. Mais pourquoi parle-t-on français à la cour ? Parce qu'il y avait des centaines de dialectes en Russie qui n'étaient pas leur site aujourd'hui, et que pour que la noblesse russe boyarde, qui venait des fins fonds de la Russie, puisse se comprendre, l'impératrice, même avant, avait exigé une langue, de même que sur les hauts Indes, l'anglais est la langue officielle, et bien la langue officielle de la cour était le français. Aucun noble russe ne pouvait venir à la cour s'il ne parlait pas français. Et d'ailleurs, beaucoup de Français vivaient en Russie, étaient reçus à la cour. Et chose curieuse, on allait souvent le nom de Ségur Rostopchine. Il s'est trouvé que l'impératrice Catherine II a eu comme ambassadeur de France Louis-Philippe de Ségur. qui était en fait le grand-père d'Eugène de Ségur, qui avait fait beaucoup pour rapprocher encore plus la France de la Russie et participer à cet élan artistique, cet élan culturel de la France en Russie. Sofia Sachin, comme d'ailleurs ses frères, parlait couramment le russe, le français, l'anglais et l'allemand. Donc arrivant en France, il n'y a pas de problème. Simplement, elle a toujours gardé, me disait mon grand-père, l'accent russe. Et on voyait qu'elle était en colère quand elle jurait en russe. Alors, je ne sais pas quel était le... Si jurait le mot vraiment, s'il était des gros mots, comme on dit maintenant, mais c'était en russe.
Et on nous a dit qu'elle descendait de la famille de Jean Giscard.
Rotopchine vient de très loin. C'est une très très vieille famille russe. Rotopchine est une déformation du nom de Rastapcha. Jean Giscard, un de ses fils, a pris le pouvoir après lui. Et ils étaient toujours d'est en ouest et ils sont venus jusqu'au territoire russe. Ils ont avancé. Mais plus ils s'éloignaient de leurs origines, plus ils s'effilochaient, si vous voulez. Et certains, peu à peu, en avaient assez de dormir sur leurs chevaux et sont restés. Et il y a justement un membre de la famille Gengis Khan qui est resté et qui a donné un Rastapcha, d'abord dans la partie géorgienne, Caucase géorgienne, qui va se rapprocher d'où Rostopchine. C'est ce que on dit dans notre famille. Je ne saurais pas le jurer, c'est pas vrai, ça fait très bien dans l'histoire. C'est amusant, c'est vrai, les Ségur se sont trouvés, donc un est ambassadeur, et l'oncle d'Eugène de Ségur, le frère de son père, le général de Ségur était aide de camp de Napoléon, il était au Kremlin avec lui, et il a vu brûler Moscou, et l'empereur est parti avec les flammes derrière, là, et tout. En tout cas, d'un côté, Ségur de l'autre.
Et Ségur, l'aide de camp de Napoléon, n'a pas osé réveiller l'empereur pour dire « Moscou brûle ». Et en fait, il regardait l'incendie qui avait été mis par le père de la future femme de son neveu. Et il paraît que le feu a duré plus d'une semaine. Gaston de Ségur rapporte une parole de sa mère sur cet incendie. Elle disait que c'était comme une aurore boréale.
Elle a son talent, Rostopchine. Mais les Ségur, également, est une très vieille famille française, dans un milieu culturel élevé. On retrouve les Ségur en 1200. Un Ségur était un gamin, on peut dire, a fait tout l'entourloupette avec Henri IV, quand il était encore Henri III, à Pau. Et si bien qu'Henri IV, devenu roi, l'a emmené avec lui. Et les Ségur ont toujours été des hauts fonctionnaires. Les Ségur n'étaient pas riches. Il n'y a pas de copropriétaires terriens. C'est des hauts fonctionnaires, mais à l'époque, il n'y a pas de salaire de fonctionnaires. On vivait que de la bonté du roi, qui donnait des pensions, 20 000 livres par-ci, 20 000 livres par-là, etc. Et puis le jour où on ne plaisait plus, on se retrouvait dans son petit coin, dans son petit bled, car les Ségur, leur bien est dans Dordogne. Il y a d'ailleurs un village qui s'appelle Ségur le Château. Il y a encore les ruines du château, enfin des ruines, quelques pierres l'une sur l'autre. Mais ils ont toujours servi la monarchie de très près. Et entre autres, Philippe-Henri de Ségur était maréchal de France et a été ministre de la guerre de Louis XVI. Philippe de Ségur était le petit-fils du régent de France, de Philippe d'Orléans, qui a eu des bontés pour...
Dans la gauche.
Il se trouve donc que Philippe-Henri de Ségur était un arrière-petit-fils de Louis XIII. Philippe de Ségur a été académicien à l'Académie française. Le général de Ségur est également membre de l'Académie française. Et par la suite, un des petits-fils de la comtesse de Ségur, Pierre de Ségur, a été également de l'Académie française avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est deux grandes familles très douées pour la culture qui sont unies entre les Rostopchine et les Ségur. Le nom de Ségur est en voie de disparition. Il reste encore deux Ségur, de la branche directe. Un est un célibataire endurci et l'autre n'a eu que deux filles.
De Gaston de Ségur.
Oui, il était évêque titulaire du chapitre de Saint-Denis. À la basilique Saint-Denis, il était aveugle très jeune et donc il n'a pas pu continuer sa carrière ecclésiastique. Il est revenu à Paris pour s'occuper donc de Saint-Denis et puis il a créé les premiers patronages à Paris. Et qui a eu l'idée de réunir plusieurs fois par semaine tous ses enfants. Et c'est vraiment lui l'âme des patronages. Il est devenu aveugle en deux temps. Il a perdu un œil puis le second...
34 ans, je crois.
34 ans. Complètement aveugle, oui. Et il raconte un été, il se promenait dans le parc des Nouettes avec ses frères et sœurs et sa mère, et puis d'un seul coup il voit comme un voile rouge qui est non pas descendu mais monté, précise-t-il. Il a compris qu'il était aveugle, il n'a rien dit, il a supplié ses frères de ne rien dire à sa mère, ils sont passés à table comme si de rien n'était, Gaston, au moment de servir le vin, a versé à côté et d'un seul coup, la comtesse a compris que son fils avait perdu un œil. C'était le deuxième, oui. La comtesse de Ségur était absolument au désespoir de voir son fils aveugle et elle a tout tenté. Comme sa fille Nathalie de Malaret était dame d'honneur de l'impératrice, elle a fait appel au docteur Nélaton, qui était le médecin de l'empereur, pour opérer son fils. Et le docteur Nélaton s'est livré à une opération atroce sur lui. Sans anesthésie, il lui a sorti l'œil ouvert. Enfin, c'était une opération abominable. Le docteur Nélaton lui avait ordonné ensuite de porter pendant 2-3 jours un masque d'eau glacée. Et il lui avait assuré qu'après, il retrouverait la vue. Et il n'a rien vu, il a souffert de manière abominable. Pour rien. Mais la comtesse Ségur voulait absolument qu'on essaye cette opération. Elle avait aussi forcé, oui, contraint son fils à aller à Tours, où il y avait un certain monsieur Dupont qui faisait des miracles. Et alors là aussi, il y a une tentative. C'est des récits très douloureux. La comtesse était là avec son fils, il a cru voir, puis il est redevenu aveugle. Enfin, c'est des moments affreux. Mais le pire, ça a été la mauvaise chirurgie du docteur Nélaton.
Enfin, il a servi de tampon entre l'empereur et le pape.
Oui, il devait intervenir dans la venue du pape. Napoléon III souhaitait la présence du pape. Et alors, comme le pape se faisait désirer, eh bien, l'empereur a dit à Monseigneur Gaston de Ségur, est-ce que vous pourriez faire quelque chose, intervenir ? Alors, il est allé et venu entre Paris et le Vatican, mais le pape n'est pas venu. Puis, c'était quand même un engagement aussi politique de la part du Vatican d'être là, pour un empereur qui était venu par coup d'État.
Il y a une suite à cela, c'est que quelques temps après, il y avait lié encore au Vatican le tribun de la Rote, qui juge les affaires, les cas particuliers, importants. Et il y a 7 représentants de différents pays. Et la France, depuis Napoléon Ier, n'avait plus de place au tribunal de la Rote. Et finalement, je crois que Monsieur de Ségur est arrivé à faire comprendre à Napoléon III qu'il ne fallait pas s'entêter, mais quand même le pape était important, il ne fallait pas bouder le pape, etc. Bref, et finalement, le pape a redonné un poste à la France au tribunal de la Rote. Et Napoléon III a dit, le meilleur là-dedans, c'est Gaston de Ségur. Et il a proposé au pape, qu'il a accepté, bien entendu, tout de suite, là, la nomination de Gaston de Ségur au tribunal de la Rote. Or, à l'époque, c'était automatique. Les membres de la Rote à 55-60 ans et passaient cardinal. Et donc, Monseigneur Ségur était déjà dans le bain et il aurait dû normalement finir sa vie comme cardinal. Mais tombant aveugle, c'est un canonique, et il a dû quitter la Rote et revenir à Paris. Pendant quoi, on lui donnait un titre d'évêque chanoine de Saint-Denis. La cécité de Monseigneur Ségur vient tout simplement, c'est que chez les Ségur, il y a une très forte myopie qui provoque le décollement de la rétine. À l'époque, on ne savait pas le soigner. Et mon grand-père a eu la même chose. Il était né très myope. Il était aveugle à 40 ans, à peu près.
Donc, tous ceux qui s'intéressent à la comtesse de Ségur, il y a un musée, il y en a même deux.
Oui, le musée de la comtesse de Ségur se trouve dans l'Orne,
à Aube,
tout près du château des Nouettes, où la comtesse de Ségur vivait. Et Mademoiselle Joule m'en est l'animatrice zélée et généreuse. Remarquable. Ce n'est pas très loin, hein. Ce n'est rien comme voyage. Et c'est magnifique. Vraiment, vous faites un travail admirable.